autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver en direct, chers amis auditeurs, pour continuer d'échanger par ondes interposées nos interrogations et nos réflexions sur ce qui nous arrive et comment y faire face. Comment faire face à la peur, à nos peurs virales et collectives, face à ces ennemis invisibles que sont les virus. La peur est-elle une bonne ou une mauvaise conseillère pour affronter cette pandémie de coronavirus qui nous renvoie non seulement aux terribles épidémies du passé de sinistre mémoire, mais aussi à d'autres plus récentes comme Ebola qui continue de sévir à bas bruit en Afrique centrale. Comment toute notre histoire, nos expériences passées et présentes peuvent-elles nous aider à traverser ces épreuves? Regard croisé et éclairé de chercheurs sur nos deux continents en compagnie de nos invités, la philosophe, historienne et médecin Anne-Marie Moulin et le philosophe et anthropologue Frédéric Keck qui sont en direct avec nous par téléphone autour de la question forcément virale de nos peurs. Comment en user sans en abuser? Bienvenue. Bonjour Anne-Marie Moulin.
Bonjour.
Bonjour Frédéric Keck.
Bonjour.
Merci à vous deux d'être en direct par téléphone avec nous en cette première journée de confinement obligatoire en France. Anne-Marie Moulin, vous êtes médecin et philosophe, spécialiste des maladies tropicales, directrice de recherche émérite au CNRS, au laboratoire de philosophie et d'histoire des sciences, où vous avez mené de nombreuses recherches et travaux sur les grandes épidémies dans l'histoire au cours des siècles, mais aussi sur celles du 21e siècle. Vous étiez en Guinée pendant l'épidémie d'Ebola. Quel est votre point de vue, Anne-Marie, si j'ose dire, sur ce que nous vivons actuellement sur la planète, en France en particulier? Est-ce qu'on en fait, si l'on peut dire, trop ou pas assez? Est-ce qu'on a trop peur ou pas assez? Qu'en pensez-vous?
Moi, je pense que, paradoxalement, les gens avaient plus peur la semaine dernière qu'aujourd'hui. Mmh. Je pense que le fait que la quarantaine est là, c'est l'état de guerre, le président a prononcé plusieurs fois ce mot, et exactement comme quand on entre en guerre, tout d'un coup, on s'occupe de la réalité quotidienne, on s'organise et la peur diminue.
Oui, quand on peut agir et quand on est informé, la peur diminue. Alors Frédéric Keck, je vais vous poser la même question en précisant tout d'abord que vous êtes philosophe, historien de la philosophie et anthropologue, spécialisé dans l'étude des épidémies, auteur entre autres en 2010 déjà d'un monde grippé. Vous venez de terminer un nouvel ouvrage de circonstances, Les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux à la frontière de la Chine, qui va paraître aux éditions de Bruxelles Zone Sensible. Alors vous, Frédéric Keck, qui avait suivi de très près l'émergence de cette épidémie de Covid-19 en Chine, qui s'est donc aujourd'hui étendue à tous les continents. Que pensez-vous de nos réactions? Trop lentes, trop tardives? La peur a-t-elle été bonne ou mauvaise conseillère? Pensez-vous, comme Anne-Marie, que finalement, d'agir est peut-être la seule solution?
Je crois qu'il faudrait prendre la distinction philosophique entre la peur et l'angoisse. Mmh. C'est une distinction que Anne-Marie Moulin connaît bien parce que c'est une grande lectrice de Kierkegaard. On s'angoisse de quelque chose qui n'existe pas et on a peur de quelque chose qui existe. Or, je crois que les Français se sont angoissés de cette pandémie de coronavirus pendant les premiers mois, parce que tout ça semblait très loin. C'était en Chine, on entendait parler de virus de chauve-souris, d'une quarantaine inconcevable sur notre continent. Et maintenant, eh bien, je crois que effectivement, la semaine dernière, les gens ont eu peur parce que les cas de maladies respiratoires aiguës se multiplient en Italie, en Espagne, en France. On commence à avoir des images, des récits de vie qui sont interrompus par cette maladie. Et je voulais juste signaler que en Chine, la peur du SRAS est bien réelle, puisque depuis 2003, cette maladie qui a affecté le continent asiatique en tuant 800 personnes sur 8000 infectés est une préoccupation qui n'a pas cessé d'habiter les esprits, alors qu'en en Europe, on en a moins entendu parler.
Oui, comme quoi la peur, vous la différenciez bien de l'angoisse, la peur de la réalité peut être une bonne conseillère. Et du coup, j'ai envie de vous poser cette question soulevée par un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux. C'est Kevi Aloubumbashi en RDC qui nous demande: est-ce que l'Afrique doit avoir peur? Et quand est-ce que cette tragédie sera-t-elle prise en charge? Que pouvons-nous lui répondre, Anne-Marie?
Oui, alors l'Afrique tremble en dépit du petit nombre de cas, parce que peut-être d'ailleurs les cas ne sont pas toujours diagnostiqués, mmh. et aussi parce qu'on prédit des catastrophes en raison de la fragilité des systèmes de santé, mmh. qui avait bien été illustré au moment de l'Ebola. Et effectivement, tout le problème se pose s'il y a une diffusion en Afrique, les systèmes de santé ne sont certainement pas en mesure de tenir le choc. D'autant plus qu'en RDC, il n'y a pas que le coronavirus qui s'affirme, il y a encore, dans plusieurs régions, il y a encore de Ebola.
Oui, donc c'est vraiment double peine et c'est vraiment la question de la saturation des services hospitaliers qui, même au nord, même chez nous, sont en train de craquer. Alors pour nous éclairer autour de cette question des épidémies et de cette peur donc qui peut, si l'angoisse est peut-être mauvaise conseillère, la peur est peut-être bonne conseillère, qui peut nous permettre de relativiser aussi un peu ce qui nous arrive, Anne-Marie Morel, il est intéressant de se pencher, Anne-Marie Moulin, pardon, il est intéressant de se pencher, comme vous le faites, sur le passé et sur notre mémoire des épidémies. Alors en Europe, au Moyen-Âge, la peste a tué par milliers. C'est d'abord à Athènes qu'ont eu lieu les premières épidémies et puis ensuite, du côté de l'Italie, les premières quarantaines. Ça fait écho tout de même, Anne-Marie Moulin.
Ah oui, ça fait écho. De toute façon, l'épidémie de Thucydide, décrite par Thucydide à Athènes, est devenue quasiment un classique pour expliquer que l'épidémie révèle et aggrave les désordres sociaux. Donc, c'est un excellent révélateur des problèmes d'une société. La quarantaine, c'est pour plus tard. La quarantaine, ça apparaît au 15e siècle, au 14e et 15e siècle, en un système décidé à détourner la peste qui vient d'Orient.
Et ça s'est révélé efficace ou ça s'est révélé la seule solution? On a l'impression aujourd'hui qu'on redécouvre, mais en même temps qu'on est certainement habité par ces mémoires épidémiques, épidémiologiques, je ne sais pas comment il faut dire.
On est d'autant plus habilité à y penser que si on veut, on peut faire le tour de la France, le long de la Méditerranée, même de l'océan, en visitant ce qui reste des nombreux lazarets qui ont émaillé le rivage. Donc l'efficacité de la quarantaine, en général, on dit que c'est pas à cause de la quarantaine que l'Europe s'est débarrassée de la peste au début du XVIIIe siècle, avec l'exception qui confirme la règle, qui est la grande épidémie de peste de Marseille en 1720, qui a eu lieu parce que précisément les marins et les marchands ont transgressé la quarantaine.
Mais sinon, vous dites que comment l'Europe s'est débarrassée de la peste
Il y a beaucoup d'hypothèses, mais c'est vrai qu'en général, on considère que la quarantaine a mis fin en évitant les transferts de marchandises et avec leurs rats et des populations de groupes affectés, et que c'est parce que la quarantaine ne marchait pas ailleurs que la peste a continué. Il faut rappeler à nos auditeurs que la peste existe toujours.
Mais oui, aujourd'hui.
Certains croient qu'elle n'existe plus, et en plus, elle existe, elle règne dans le pays qui est une île, et qui a le plus de cas au monde, c'est Madagascar, où il y a régulièrement des épidémies.
Qu'on peut traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les antibiotiques qu'il faut face à la peste, mais autour de cette question des épidémies et de nos peurs, qui sont elles aussi collectives, justifiées, virales parfois, je propose de nous plonger dans un passé alors un peu plus récent que ce dont vous venez de parler, Anne-Marie Moulin, mais un passé terrible, avec cet extrait du film « Le hussard sur le toit » tiré du roman de Jean Giono sur l'épidémie de choléra qui a ravagé la Provence, donc le sud de la France en 1832.
Allongez-vous. Laissez-moi qu'est-ce qui vous prend. Allongez-vous, je vous dis. Vos jambes. Vous avez froid aux jambes?
Mes jambes vont très bien, foutez-moi la paix.
Restez tranquille. Regardez-moi, vous êtes tout blanc. Montrez-moi votre œil. Vous sentez si je vous pince?
Mais arrêtez!
Buvez ça.
Qu'est-ce que c'est?
N'ayez pas peur, je suis médecin. Allez, buvez. Allez-y, franchement. Je tiens debout qu'avec ça depuis 3 jours. Vous étiez là, dans le village?
Oui.
Il y a des malades?
Non, des morts, il y a des morts partout.
Vous les avez touchés?
Touchés, non, j'ai voulu les...
Restez là, bougez pas. Occupez-vous des chevaux, je vais voir. Mais, puisque je vous dis qu'ils sont tous morts, il y en a qui se cachent. À la Baume, j'en ai trouvé un dans un pigeonnier. C'est partout pareil.
Mais quoi, qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est le choléra, mon vieux, le morbus asiatique. Vous tombez de la lune ou quoi? Le plus gros débarquement de choléra qu'on ait jamais vu.
Provence, 1832, le hussard sur le toit ou la cavale d'un révolutionnaire italien pendant les ravages de l'épi de d'épidémie de choléra. Anne-Marie Moulin, c'est inimaginable pour nous, c'est terrifiant, parce qu'on s'est longtemps cru protégé. On a pensé que tout ça, c'était derrière nous.
Complètement. Il y avait une ferme croyance que, d'ailleurs, rappelez-vous, non seulement on n'aurait plus d'épidémie, mais même on allait éradiquer, après la variole, les multiples fléaux du monde. Et périodiquement, on remettait, on ajournait la réalisation de cette belle promesse, mais quelque part, elle est encore dans l'air, elle nous habite encore.
Et qu'est-ce qui fait, Frédéric, qu'est-ce que ça peut dire de nous? Alors à la fois cette croyance, le fait qu'on s'est dit on va éradiquer les virus, et le fait que finalement, au cours là de ce 21e siècle, ça ressurgit.
Oui, il y a un ouvrage classique par l'historien Jean Delumeau, qui est décédé récemment, intitulé « La peur en Occident », qui accorde une grande place à la peste, la grande peste qui a tué entre 30 et 50% des Européens en 5 ans, en 25 millions de victimes. Et il montre comment la peste était interprétée comme un fléau de Dieu, souvent associé d'ailleurs aux guerres, et en même temps associé à la peur de la possibilité de commercialiser au moment où le Moyen-Âge commençait à inventer les grandes foires. Donc la quarantaine, c'était effectivement une façon de continuer à faire du commerce en isolant les foyers d'épidémie. C'était déjà une première prise en charge scientifique des épidémies et plus seulement religieuse par l'expiation. Effectivement, l'épidémiologie s'est développée au 19e siècle parce qu'on a pu commencer à étudier les conditions sociales et environnementales de diffusion des épidémies, donc le choléra par l'eau, la tuberculose par les conditions de travail, les différences entre les ouvriers et les bourgeois. C'est la vaccination a permis justement d'unifier le corps social par des systèmes d'assurance, de distribution assurés par l'État. Donc cette croyance moderne que la vaccination allait mettre fin à toute cette grande histoire des épidémies et qu'on allait pouvoir passer aux maladies chroniques était vraiment très forte dans les années 70 et a été remplacée par une nouvelle croyance scientifique qui est la nôtre aujourd'hui, qui est que du fait de la mondialisation et de la circulation accélérée des personnes et des marchandises, et aussi des transformations écologiques désastreuses en cours depuis 30 ans, de nouvelles maladies apparaissent, Ebola en Afrique ou la grippe aviaire en Asie.
Oui, et on s'est longtemps cru, alors peut-être de manière un peu hautaine, au Nord, en Occident, un peu protégé. Vous, Frédéric, vous avez suivi, et vous l'avez dit, les différentes épidémies de grippe aviaire, de SRAS notamment, qui ont marqué profondément le continent asiatique et les Chinois en particulier. Vous avez évidemment suivi de près les toutes premières mesures drastiques de confinement qui ont été prises en Chine avec un peu de retard tout de même, avec énormément de rigueur et de vigueur face au coronavirus. Je vous propose, avant de vous laisser réagir, d'écouter un extrait de la chronique d'une quarantaine. C'est un film documentaire autobiographique du journaliste Sébastien Lebelzik qui est passé sur Arte. Il est en poste à Pékin depuis 15 ans et il nous faisait partager son quotidien en Chine, qui nous semblait à l'époque, quand ça a été diffusé il y a 15 jours sur Arte, très loin, et qui est peut-être un avant-goût de ce qui nous attend.
Autour des villes, des barrières se sont dressées partout. Autour des provinces, autour des quartiers et autour de chaque résidence. Chez moi, des types en uniforme contrôlent désormais les entrées et les sorties. Et c'est partout pareil. C'est tout l'appareil sécuritaire du Parti communiste, les comités de quartier, chargés de contrôler les comportements politiques ou sociaux des habitants qui se sont reconvertis en gendarmes spécialisés dans les virus. Contrôle de température, quarantaine obligatoire si on quitte la ville, masque obligatoire, les Pékinois ont petit à petit disparu de la surface de leur ville, confinés par le régime et confinés par la peur aussi.
Confinés par le régime, confinés par la peur. Vous voulez réagir, Frédéric Keck, à cet éclairage, à ce documentaire qui glaçait un peu les eaux parce qu'il se terminait un peu en science-fiction avec plus personne dans la rue, sauf qu'aujourd'hui, les Chinois commencent à ressortir et que nous sommes confinés.
Oui, c'est très impressionnant, ces mesures qui ont été adoptées contre le SRAS en 2003 et puis contre le Covid-19 au début de cette année. Elles permettent de voir la discipline que l'État chinois peut exiger de sa population, qui semble difficilement applicable à notre vieux continent libéral. Mais il faut voir aussi comment les Chinois ont vécu de l'intérieur, en quelque sorte, ces politiques de lutte contre l'épidémie. La Chine se remet de deux siècles d'humiliation par les puissances occidentales, avec les guerres que l'Angleterre a fait pour l'opium, pour le commerce de l'opium, avec tous les comptoirs qui ont été construits par les Occidentaux, le sac du palais d'été. Et donc l'idée que la Chine n'est pas capable de prendre en charge ces épidémies est une idée très ancienne qui date du milieu du 19e siècle, où on représentait la Chine comme l'homme malade de l'Asie. Et donc toute la politique maoïste qui a été reprise par le président Xi Jinping, qui pense actualiser le potentiel de contrôle du maoïsme avec les technologies occidentales, eh bien tout ça visait justement à faire que les épidémies soient contrôlées et que les mesures de préparation aux pandémies qui étaient en fait imposées par l'Occident depuis les années 70-80 aux Chinois, eh bien en quelque sorte aujourd'hui la Chine nous les renvoie en nous posant la question: est-ce que vous êtes capable de gérer une pandémie comme nous l'avons fait nous-mêmes?
Oui, on voit dans ce que vous dites qu'on est à la fois tous marqués par le poids de notre histoire, hein, par nos mémoires, quelles qu'elles soient, et aussi que par un espèce de retournement, je trouve, hein, très étrange aujourd'hui, c'est nous qui avons peur de contaminer le continent africain, le Sud, ce sont les Chinois qui ont, entre guillemets, gagné, ou en tout cas, s'en sont plus ou moins sortis avant nous. Anne-Marie Moulin, vous voulez réagir là-dessus, sur cette espèce de véritable changement? De toute façon, je pense que le monde ne sera plus le même après, j'espère en tout cas qu'il ne sera plus le même après.
Il y a aussi quelque chose que je trouve un peu troublant,
oui.
C'est le fait que la majorité, en fait, je pense, de la population adhère à l'idée de ce qui est en train de se mettre en place, n'ayons pas peur des mots, une sorte de dictature sanitaire.
Absolument.
Et cela, ce qui me semble étrange, c'est d'accepter cela sans nuance et sans se rappeler que dans le passé, nous avons les témoignages multiples pour montrer que toute quarantaine absolue, radicale, entraîne des transgressions, on l'a bien vu, et puis de la corruption, du favoritisme, et surtout que la paralysie des échanges économiques touche inévitablement les plus pauvres et les plus vulnérables économiquement.
C'est ça, et comment faire justement, parce que je vous rejoins complètement, c'est-à-dire comment faire effectivement, ça rejoint aussi d'autres questions de nos auditeurs sur les réseaux sociaux, pour que ça ne touche pas que les plus vulnérables, que les plus pauvres. On n'est pas à l'après-épidémie pour le moment, mais on se demande quand même si, encore une fois, pour le dire très vulgairement, l'argent ne va pas aller encore à l'économie, au capital, et pas vraiment à notre capital santé, aux hôpitaux, aux infirmières, et puis aux plus vulnérables. Vous avez des pistes?
Alors, on peut se poser la question de savoir quelle société résultera du corona. Est-ce que c'est, comme on pourrait l'espérer, mais on n'en est pas sûr, une société plus morale, plus solidaire, qui fasse davantage attention à l'écologie? Ça, c'est l'hypothèse qui a été à plusieurs reprises évoquée. Mais on peut aussi penser que c'est l'expérience, par exemple, du télétravail et de beaucoup de formes d'éloignement, le règne de l'informatique, etc., va être propulsé après l'épidémie, puisqu'au fond, la société aura fonctionné autrement.
Ce qui est sûr pour l'instant, si je peux me permettre d'intervenir,
bien sûr, Frédéric,
c'est que on voit que l'épidémie, dès maintenant, teste la capacité des systèmes hospitaliers de chaque nation. Et la composition entre des systèmes publics et des systèmes privés. Le système chinois est massivement public et on voit qu'il a plutôt bien résisté à l'épreuve, même si sans doute il y a beaucoup de gens qui sont morts chez eux et qui n'ont pas été comptabilisés. La France essaye de justement composer entre le public et le privé. On a vu des appels récents à ce que les médecins de ville se joignent à la mobilisation, et ce qui va se passer aux États-Unis sera un vrai test pour les réformes de la santé entre Obama et Trump.
D'où la question que soulève pour vous deux, Anne-Marie et Frédéric, notre confrère de Science et Avenir, Mathieu Novak. On l'écoute.
Est-ce qu'une épidémie telle que celle du coronavirus n'est pas aussi un test pour nos régimes politiques? Un test, est-ce qu'une dictature extrême ou une démocratie extrêmement libérale est un meilleur système qu'un autre pour lutter contre une épidémie ?
Vous avez la réponse. Quelle réponse pouvez-vous nous apporter ? Frédéric Heck, peut-être ?
Oui, une démocratie libérale, c'est un terme intéressant parce que, la question de savoir si la Chine est un régime démocratique se pose. Elle se prétend en tout cas démocratique puisque le parti pense avoir sa légitimité du peuple, même s'il n'est pas élu selon nos procédures. Mais c'est une démocratie illibérale, hein, selon les catégories de Viktor Orban qui les reprend. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de promouvoir la liberté politique, la liberté de réunion, comme un critère majeur, alors que nous avons tenu par exemple à organiser des élections comme une activité prioritaire de notre nation en temps d'épidémie. Donc c'est vraiment la question de la liberté qui n'est pas seulement une liberté commerciale, mais aussi une liberté politique de pouvoir délibérer collectivement sur l'avenir de la nation.
Anne-Marie Moulin.
Il y a eu un moment d'hésitation la semaine dernière. On était encore avant le stade 3 et on pouvait supposer qu'on allait opter pour une société restant un peu libre de s'organiser avec des initiatives de la part des associations et des citoyens et une évaluation du risque épidémiologique dans la vie de tous les jours. Là, on a choisi une solution autoritaire qui passe nécessairement par un système de surveillance et en particulier par la mobilisation des forces de l'ordre afin d'épingler ceux qui contreviendraient aux règles. Donc c'est vraiment un choix qui nous a éloignés de ce qu'on pourrait imaginer être « démocratie sanitaire », entre guillemets.
Et si la meilleure des défenses face à la pandémie, comme face à nos peurs ou à nos tentations sécuritaires, c'était de danser, non pas seulement au bord du volcan, mais avec la Cumbia del Corona, morceau signé Ivan Montemior, alias Mister Cumbia, chanteur mexicain résident aux États-Unis que vous nous avez conseillé, Frédéric Heck, on vous en remercie. La Cumbia del Corona à consommer avec ou sans masque sur RFI. Ambiance avec Mister Cumbia sur RFI, la Cumbia del Corona. Merci Frédéric Heck de nous avoir alerté sur ce morceau viral sur Internet et qui fonctionne bien. Mieux vaut en rire et en danser qu'en pleurer.
Oui, j'ai reçu effectivement cette chanson par les réseaux sociaux et elle m'a plu parce que contrairement à tout ce qu'on entend sur les corona parties où les gens font la fête et s'embrassent avant de se confiner en se partageant ainsi des risques d'exposition, eh bien je trouve que cette chanson festive donne tous les messages en fait pour des bonnes mesures de santé publique. Il y a une nouvelle maladie, elle cause une alerte mondiale, on dit qu'elle est née en Chine et il faut faire attention. Voilà, donc c'est des mots très simples qui maintenant effectivement passe de façon virale sur les réseaux sociaux.
Donc à écouter sans modération autour de la question comment faire face à nos peurs, rationnelles et irrationnelles, face à la pandémie. Nous nous interrogeons donc en direct par téléphone avec vous. Frédéric Heck, vous êtes philosophe et anthropologue. Avec vous, Anne-Marie Moulin, vous êtes médecin, philosophe et historienne. Regard croisé donc et retour d'expérience sur cette fois-ci l'épidémie d'Ebola, la première qui a sévi en Guinée en 2014. C'est l'éclairage vu d'ailleurs, vu de Conakry, d'Alpha Keta, chercheur en épidémiologie. Alpha Keita a décidé de repartir pendant l'épidémie, de mener ses recherches en Guinée sur le virus Ebola, en lien avec son institut de recherche à l'IRD et à l'université d'Aix-Marseille. Il a même contribué à constituer à Conakry le premier centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée, où il travaille actuellement sur et avec des patients survivants. On écoute Alpha Keita, que j'ai joint par téléphone pour lui demander d'abord comment il avait fait avec sa propre peur.
Quand j'ai décidé de m'investir, la peur ne faisait pas partie de mon calcul. En fait. Le désir de s'investir allait au-delà de la peur. En étant professionnel de santé et en ayant décidé de m'engager dans la gestion des épidémies, la première chose que je me dis et que je répète autour de moi, c'est que le manque d'informations sur ces pathogènes-là exacerbe encore plus la peur au sein de la population qui ne sait pas exactement à quoi ils ont affaire. Donc je pense que cette peur-là constitue le pire ennemi que l'on peut avoir dans la gestion des crises épidémiques comme Ebola. Il faut que les gens soient informés, il faut que les gens soient sensibilisés sur le danger réel qui court. Le manque d'informations autour d'une situation épidémique telle qu'Ebola, la conséquence directe, c'est que les personnes naïves, entre guillemets, se font leur propre opinion sur la base de ce qui se passe autour d'eux. Ils voient dans une famille de voisins qu'il y a eu des malades et que les malades n'ont pas survécu. Et la personne se dit automatiquement que si elle est confrontée au virus, elle finira forcément comme le voisin. Donc ça entraîne des réactions de défiance face aux professionnels de santé en premier lieu et même face aux autorités. Je pense que la peur, c'est notre pire ennemi dans la gestion des crises épidémiques. Donc des campagnes de sensibilisation à grande échelle ont été mises en place pour que chacun prenne conscience de la réalité de la situation et que les gens se comportent en conséquence.
Et vous-même, maintenant, par rapport à ça, avec ce recul-là, comment est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire par rapport à ces peurs? On l'a bien compris, informer, dire les choses. Oui. Quelles seraient vos pistes à vous? Ou comment faire maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres étapes ensuite? Comment est-ce qu'on peut apprivoiser cette peur qui, selon vous, est notre pire ennemi, Alpha Cabinet Keita?
Moi, je pense surtout qu'il faut éviter les exagérations. Il faut maîtriser la communication autour de ces sujets-là. La raison, elle est simple. Lorsque un professionnel de santé connu ou même pas connu s'exprime sur un sujet épidémie Ebola ou actuellement l'épidémie du coronavirus qui affole tout le monde, il faut que les paroles que les gens prononcent permettent à la population générale de comprendre les risques réels auxquels ils sont appelés à faire face. Et quelles sont les mesures qu'ils peuvent prendre pour éviter la maladie si elle est là? C'est la sensibilisation et la sensibilisation sur des faits réels, pas sur des faits supposés.
Anne-Marie Moulin, vous étiez vous-même en Guinée hein, pendant cette épidémie. J'imagine oui. que vous voulez réagir à ces propos d'Alpha Cabinet Keita.
Je voulais signaler, mais Alpha Keita connaît bien, la parution toute récente d'un livre par Tierno Silla et Bernard Taverne, mm-hmm. qui s'appelle précisément « Les survivants ». Vous parliez de paroles, le sous-titre c'est « Paroles de femmes guéries d'Ebola ». Je pense que c'est la sortie d'Ebola qui est la sortie des peurs, avec les peurs qui subsistent, qui sont exprimées dans ce véritable journal.
Mais comment faire face à elle? Parce que là, pour le coup, les peurs, elles sont totalement rationnelles. Je ne minimise pas le coronavirus, mais face à Ebola, un virus qui est quasiment toujours mortel, il y a heureusement quelques survivants et survivantes que Alpha étudie, et il y a donc ce livre avec ses paroles de survivantes. Mais comment faire face à une épidémie d'une aussi grande violence, virulence et létalité?
Vous parlez là de... d'Ebola ou de...
Oui, je parle d'Ebola.
Ou du corona.
Ouais, non, je parle d'Ebola.
Pour Ebola, précisément, ce que les survivantes montrent bien, c'est qu'il y a d'abord une réintégration difficile des femmes guéries, parce qu'elles suscitent dans la population une sorte de rejet, une méfiance vis-à-vis du fait qu'elle serait peut-être encore porteuse du virus, ce qui évidemment vient rejoindre aussi l'idée que peut-être le virus survit dans quelques sanctuaires immunitaires et que quelque part Ebola pourrait devenir une maladie chronique. Ce sont autant de questions, des questions scientifiques, mais aussi des questions qui quelque part croisent les angoisses à recevoir les survivants.
Autour de toutes ces questions, justement, j'ai envie de vous en soumettre une autre, l'un de nos auditeurs au Sénégal, qui nous a mis aujourd'hui, là on revient au coronavirus. Pourquoi est-ce que dans ces périodes d'épidémie, nous demande Mara Diouf, y a-t-il des populations qui nient l'existence de ces maladies ou voire même qui soutiennent la théorie du complot? Parce qu'on assiste aussi à des désinformations, on voit bien qu'aussi que vu d'Afrique, ça peut paraître un peu compliqué. Comment faire face à toutes ces théories et toutes ces désinformations? Frédéric Keck.
Mais je crois qu'il faut revenir à la distinction entre l'angoisse et la peur. Encore une fois, elle est très utile. On s'angoisse de tout ce qui peut nous arriver parce que nous sommes entourés de choses invisibles qui peuvent nous menacer. Les Africains connaissent bien cela parce que c'est le fondement de la sorcellerie, finalement. Or, la peur, c'est justement le moment où ces angoisses se focalisent sur une chose très précise qui devient réelle. Et on voit en ce moment que le coronavirus est très réel, en tout cas en France. Juste pour vous donner une anecdote, en tant qu'anthropologue, on réfléchit aux peurs et à leur caractère irrationnel ou rationnel. Moi, quand j'ai passé un mois à Hong Kong, au tout début de mes recherches, on parlait de la grippe aviaire en 2007, comme quelque chose de très irrationnel. On pensait que c'était les Chinois qui racontaient des histoires sur des oiseaux qui transmettaient des virus transmissibles entre humains alors qu'il y avait encore très peu de cas. Et après un mois à avoir étudié les mécanismes de préparation à la grippe aviaire à Hong Kong, avoir lu des récits de la crise du SRAS, qui est un coronavirus qui vient des animaux, c'est vrai que moi-même, par exemple, j'ai eu peur. À un moment, j'ai visité une réserve d'oiseaux, j'ai pas pris les mesures de précaution nécessaires et je me suis souillé les mains avec un coquillage, j'ai eu de la fébrilité, j'ai eu vraiment peur d'avoir attrapé la grippe aviaire. Donc voilà, en tant qu'anthropologue, on est pris en quelque sorte dans ces dispositifs que souvent on regarde avec un peu de scepticisme quand on est extérieur.
Oui, c'est ça. En fait, il faut faire attention à tout, prendre conscience de tout, de la mesure de tout, en essayant de ne pas se laisser complètement embarquer. Alors c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui. Alpha Keita parlait, lui, du manque d'information au départ. Moi, je me demande parfois si aujourd'hui, notre angoisse, alors effectivement, quand on est dedans, on est dedans, mais notre angoisse n'est pas un peu réveillée, suscitée et rendue virale par justement les réseaux sociaux et peut-être le trop d'informations ou les chaînes d'information où il y a un décompte de morts perpétuels, des chiffres qui en plus ne veulent pas toujours dire grand-chose, mais qui sont anxiogènes. C'est tout le sens de la question de notre confrère David Fossé du magazine Ciel et Espace.
Au regard de l'histoire de la peur des épidémies, est-ce que les nouvelles technologies et les réseaux sociaux démultiplient ces peurs ou au contraire les atténuent? Est-ce qu'il y a des impacts visibles?
Qui veut répondre là-dessus? Frédéric Keck, peut-être?
Oui, mais j'ai quelques hypothèses sur la viralité. C'est un peu long à développer, mais je l'ai fait ailleurs. Le virus se développe un peu comme les informations sur le virus, c'est-à-dire que c'est un morceau d'information qui cherche à se répliquer. En général, il le fait de façon bénigne, et puis dans certaines conditions, les cellules qui doivent l'accueillir sont détruites par ce virus. Et c'est un peu la même chose sur les fake news. C'est juste une information qui est un peu déraillé et qui, en s'amplifiant, fait dérailler l'ensemble du système.
Donc vous comparez vraiment, oui, la viralité. C'est pas pour rien qu'on emploie ce mot viralité et virus. Anne-Marie Moulin, j'ai envie de vous demander, puisque Frédéric Keck nous a fait partager ce qu'on comprend parfaitement, une peur d'anthropologue, quand on travaille sur toutes ces maladies, sur ces épidémies, même si c'est dans l'histoire, comme vous l'avez fait souvent, mais vous l'avez fait en vrai en Guinée au moment d'Ebola. Comment est-ce qu'on fait avec ses propres peurs, justement?
Je suis auvergnate, les Auvergnats, les Arvernes n'avaient pas peur de grand-chose, sauf que le ciel leur tombe sur la tête.
Voilà, c'est ça. On a lu Astérix, oui.
Oui, donc j'essaie de garder la tête froide. Mais je pense qu'en fait, la peur est quelque chose qui est relativement facile à détourner. Mais en même temps, il y a un acteur invisible, c'est notre système immunitaire. Je pense qu'on ne s'est pas assez intéressé à lui. Un système immunitaire qui est tout à la fois défié par les virus, mais qui aussi réagit. Et nos confrères, nos amis britanniques ont préféré dans la stratégie faire confiance au système immunitaire et à la mémoire collective qui s'établit très lentement au fur et à mesure que le virus passe d'un organisme à l'autre.
C'est-à-dire d'agir en prévention ou de dire on fait confiance à notre système immunitaire pour qu'il puisse faire face, c'est ça ?
Oui, mais en même temps, le système immunitaire est quelque chose d'extrêmement fragile. Et, un nouveau nom de la peur, c'est la peur l'angoisse qui est le stress. Mmh. Le stress est un nom de la peur. On ne parlait plus beaucoup de la peur.
C'est vrai.
Et le stress est quelque chose qui est étudiable physiologiquement, qui est même étudiable sur des animaux d'expérience. Et on peut peut-être jouer là-dedans sur la résilience de notre système immunitaire, en sachant qu'elle dépend beaucoup de l'environnement, des messages politiques, etc. Et c'est là que la quarantaine radicale trouve peut-être ses limitations. Parce que quelque part, elle n'encourage pas ce sentiment de confiance que l'on peut placer dans un système immunitaire qui est à la fois individuel et collectif.
C'est ça, à la fois individuel et collectif. Et puis, c'est aussi des questions carrément écologiques. C'est-à-dire qu'effectivement, on se sent bien dans un univers dans lequel on se sent bien. Alors, pour se sentir bien et continuer de s'interroger ensemble, je propose d'écouter le collectif d'artistes du continent africain contre Ebola, où l'on retrouve dans le désordre, je vous les cite, Oumou Sangaré, Salif Keita, Didi Awadi, Amadou et Mariam, ou encore Tikenja, Africa Stop Ebola sur RFI.
L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades, ne touchons pas nos mourants. Tout le monde est en danger, les jeunes et les anciens. Il faut agir pour nos familles.
Ebola. Ennemi. Si vous vous sentez malade, les docteurs vont vous aider. Je vous rassure, les docteurs vont vous aider. Il y a de l'espoir d'arrêter Ebola. Aie confiance au docteur.
Ebola, Africa Stop Ebola, collectif d'artistes du continent sur RFI pour nous redonner espoir. Autour de la question des épidémies, de nos peurs rationnelles et irrationnelles, nous sommes en compagnie de l'historienne et philosophe Anne-Marie Moulin et du philosophe et anthropologue Frédéric Keck, tous deux spécialistes de l'histoire des épidémies. Autour de la question donc comment faire face à nos peurs pour traverser ces virus, ou peut-être faut-il arrêter de penser à les éradiquer et apprendre à vivre avec, comme nous le confiait récemment un épidémiologue. Je vous propose d'écouter l'éclairage instructif d'une formidable chercheuse en immunologie du continent, la professeure Francine Toumi, lauréate de prestigieux prix scientifiques, qui a été à la pointe de toutes les recherches sur le VIH-Sida, le paludisme, Ebola, la tuberculose. Nous avons joint Francine Toumi à Kinshasa, en RDC, où elle a fondé, où elle dirige actuellement, la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale. Écoutez son éclairage vu d'ailleurs, vu de Kinshasa.
je n'ai pas l'impression que les gens prennent la mesure et qu'ils aient particulièrement peur. C'est diffus, c'est la désinformation. Voilà, moi je trouve que c'est vrai que c'est inquiétant, bien sûr, je ne minimise pas, mais nous avons beaucoup d'autres maladies, nous, hein, qui tuent terriblement. Il y a la tuberculose qui est là, qui est une maladie transmissible. Hein, de la même manière, qui tue terriblement. Et tous les jours, on a des morts, encore une fois, dont on ne connaît pas la cause. Bon, donc, c'est ce qui m'intéresse d'abord. Et ce qui me rassure, quelque part, c'est que le Nord met tellement d'argent là-dessus que je dirais presque, peut-être que cela nous permet, nous, de nous focaliser sur autre chose. Nous devons bien sûr contribuer à cette recherche, mais bon, cette inquiétude du Nord est bonne pour nous, quelque part.
Elle va vous permettre de travailler et de faire de la recherche sur tous les virus, quels qu'ils soient, c'est un peu ça. Hein.
Exactement, donc ça fait avancer la science et surtout que l'on sait parfaitement, surtout, qu'il y aura d'autres épidémies. Ce n'est qu'un épisode, ça. Donc, toutes les leçons qu'on va apprendre de coronavirus, qu'on a apprises d'Ebola déjà, qu'on va apprendre de coronavirus et d'autres, nous permettent de mieux nous préparer aux futures épidémies qui vont arriver. Et dans ce sens, moi, en tant que scientifique africaine, ça permet d'attirer l'attention, encore une fois, des pouvoirs publics pour leur dire que la plupart de ces virus sont des zoonoses, viennent de l'animal, et nous, nous côtoyons ces animaux. Et ils sont là. Quel est notre investissement dans l'investigation pour la recherche des virus qu'ils portent actuellement, pour comprendre à quel moment et pourquoi, soudain, ils passent la barrière et passent chez l'homme. C'est notre responsabilité, là aussi. Il est certain qu'il y aura d'autres épidémies de virales, mais peut-être que cela nous montre qu'on doit se préparer, et se préparer, c'est connaître notre environnement, savoir quels sont les pathogènes qui sont là et les surveiller. Donc en tant que scientifique, ce sont des outils de plaidoyer pour faire comprendre, investissez nos gouvernements africains, investissez dans la recherche pour empêcher ou tout au moins prévenir ou tout au moins arriver à contrôler les futures épidémies.
Vous voulez réagir à cet appel hein, de la professeure d'immunologie Francine Toumi. D'autres chercheurs ailleurs, au nord comme au sud, disent un peu la même chose. Attention, surtout que ça nous permette de continuer, de poursuivre, même de mener des recherches sur justement les zoonoses. Enfin, on a quand même l'impression qu'on oublie très vite, trop vite, ou qu'on a cru que ça nous arriverait jamais, Frédéric Keck.
Oui, l'immunité est un concept vraiment central pour penser les épidémies. Des philosophes ont considéré que l'immunité était au centre d'une politique de la peur qui serait manipulée par les gouvernements. C'est en partie vrai, mais c'est un peu imprécis, parce que justement l'immunité, c'est plutôt les bonnes distances entre les microbes qui arrivent de l'extérieur et le système immunitaire que forme l'organisme. Anne-Marie Moulin a écrit une très belle histoire de cette idée de système immunitaire. Or, en fait, ce qu'on découvre, c'est que les pathogènes ou les microbes ont des effets différents selon justement les distances qu'ils ont par rapport à notre organisme. Mmh. Des microbes qui viennent d'animaux très éloignés, comme les chauves-souris ou les oiseaux, vont contourner les cellules sentinelles qui sont supposées capter l'information des virus ou des bactéries pour les amener aux bonnes cellules du système immunitaire.
Mais on n'est pas adapté du tout pour faire face à ces virus-là, c'est ça que vous nous dites.
Voilà, et le message des virologues, c'est que plus le virus vient d'une espèce éloignée, plus la réponse du système immunitaire peut être inappropriée et souvent causer des paniques immunitaires, en sorte que nous mourrons davantage de la panique du système immunitaire que du virus lui-même.
Oui, encore une fois, Anne-Marie Moulin, vous qui avez beaucoup travaillé là-dessus, vous parlez du stress tout à l'heure ou de la panique. En fait, nous mourrons beaucoup du fait qu'on n'a pas assez peut-être étudié ces virus à temps, dans les temps, et qu'on n'a pas compris à quel point on ne pouvait pas vivre avec justement cela et avec lesquels pourrait-on vivre avec. Vous voulez réagir, Anne-Marie Moulin ?
Oui, on oublie beaucoup, et Frédéric l'a évoqué, que nous sommes quand même des vivants parmi les autres, mmh. et qu'il y a autour de nous tout un monde d'espèces que nous oublions dans nos villes où la distance avec les animaux grandit. Mmh. Et en fait, c'est là que la force des coronavirus, c'est une famille, en fait, une famille qui fréquente beaucoup les différentes espèces, et en particulier les oiseaux. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose du rôle des oiseaux dans l'épidémie actuelle, mmh. mais on voit bien que c'est une façon de nous rappeler que nous sommes des êtres vivants parmi les autres, et que nous faisons face à des êtres vivants, si on peut dire que les virus, qui sont des parasites, sont des vivants, et qui s'adaptent, qui n'attendent pas que nous les frappions, mais qui s'adaptent très, très rapidement, et que nous devons, avec intelligence, suivre dans leur évolution.
C'est ça, hein, suivre depuis le départ. On parlait de prévention, on parlait d'immunité. Alors, vous êtes tous les deux, Anne-Marie Moulin et Frédéric Heck, et pour cause, beaucoup sollicités en ce moment par tous les médias. Comment est-ce que vous faites justement pour faire passer des messages qui soient, on a bien compris l'important de ces messages, tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui, aussi sur le quarantaine, le confinement, c'est bien, mais il faut aussi qu'on se sente bien, il faut aussi faire commencer un système immunitaire. Enfin, tout ça est quand même à chaque fois complexe, et justement ni blanc ni noir. Comment est-ce que vous faites, et quel message faut-il ou devons-nous, nous médias, vous demander de faire passer?
Je vais rebondir sur ce que...
Pardon.
Je rebondis sur ce qu'a dit Anne-Marie, oui. Et je lui laisse la parole.
Absolument.
Comme on ne se voit pas, c'est difficile. On voit bien quand même les limites des échanges téléphoniques.
C'est vrai, des échanges téléphoniques. Mais on y arrive quand même. Allez-y, Frédéric Heck, et ensuite, ce sera Anne-Marie Moulin.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Anne-Marie, je crois que le message, c'est que les virus sont intelligents, ce n'est pas des ennemis qui n'auraient qu'une idée en tête de nous détruire. Les virus ont des stratégies, c'est des morceaux d'informations qui cherchent à se répliquer, et selon leur configuration biologique, ces stratégies sont différentes. Le coronavirus, par exemple, ce qui est très mystérieux, c'est sa période d'incubation. Par contre, il est très stable au niveau de la létalité. Ebola, par exemple, est très létal. D'une certaine façon, c'est un virus pas très intelligent parce qu'il tue très vite les personnes, donc il est très peu contagieux. Le virus de grippe aviaire, au contraire, c'est ce virus qui arrive à contourner les sentinelles, les cellules sentinelles. Et donc là, il faut comprendre cette stratégie. Donc, les virus sont des signaux, en fait, que nous devons comprendre sur les perturbations de l'environnement, de nos relations avec les autres espèces. Et donc, nous, en tant que philosophes, anthropologues, historiens, on essaye de mettre en relation ces signaux biologiques avec tout un ensemble d'autres signaux dans les relations entre les humains et les autres espèces, et puis aussi des différents états entre eux et leur population.
Merci Frédéric Heck. Anne-Marie Moulin, c'est à vous pour conclure.
Oui, je pense qu'il y a deux points, deux leçons des épidémies. C'est d'une part que nous restons confrontés aux certitudes, mais aussi aux incertitudes de la science. Mmh. Plus de recherches vont marteler nos syndicats à juste titre. Mmh. Et puis le deuxième point, c'est l'expérience historique des grandes pestes. Même au Moyen-Âge, même à la Renaissance, il y avait des gens au milieu des cadavres qui gardaient la terre froide et qui raisonnaient. Et puis, je voudrais finir, puisque vous avez fait écouter de la belle musique, il y a eu aussi de belles œuvres artistiques qui sont nées des répits qu'a pu donner la peste, comme le Décaméron de Boccace, et il y en a eu beaucoup d'autres.
Oh, merci beaucoup à tous les deux, hein, Anne-Marie Moulin et Frédéric Heck, d'avoir été donc en direct par téléphone avec nous pour nous éclairer véritablement. Merci. Nous ferons sûrement encore appel à vos lumières et à vos éclairages passés, présents et futurs dans cette période de pandémie sur RFI. Et je rappelle, Frédéric Heck, que votre ouvrage apparaîtra très bientôt, s'intitule Les Sentinelles des Pandémies, sera publié par les éditions Zone Sensible à Bruxelles. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Chers amis auditeurs et auditrices, que vous soyez confinés ou non, merci pour votre écoute attentive. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre podcast sur votre application favorite. Demain, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, nous proposerons de nous changer les idées dans toutes les langues du monde ou presque, en réécoutant l'entretien que nous avait accordé le géographe et historien Jean Cellier autour de la question comment raconter l'histoire des langues et des peuples qui les parlent. Merci pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles à l'écoute de RFI.